Bonjour à tous et bienvenue dans Message à caractère informatique, épisode 2. Aujourd'hui, on a un super gang pour calculer l'actu et on a un gang pas drôle qui commence avec Victor. Bonjour Victor.
Salut.
Donc Victor, qui es-tu?
Victor, je travaille avec toi chez Clever et je viens de la banque, donc voilà, c'est pour ça que je suis hyper drôle. Et j'essaie de redécouvrir un peu le fun chez Clever Cloud en faisant de la data science et du machine learning, un petit peu.
Ok, on a également Hubert Sablonnière.
Salut. Qui...
Bonjour Hubert, toi tu fais quoi chez Clever?
Alors moi je suis un peu monsieur UI chez Clever, je m'occupe de tout ce qui est graphical user interface et command line user interface, donc notre outil en ligne de commande et notre console web d'administration.
Moi, je pense que les gens vont se dire que je suis quand même le manager le pire de l'année. Tu sais, la boîte fait 20 personnes et je demande aux gens, en fait, tu fais quoi dans la boîte? Et pour finir, Laurent Deguin, dit Laurent Deguin, qui est parmi nous aujourd'hui.
Elle Deguin.
Elle Deguin.
Elle Deguin.
Qui fait du DevRel, comme personne ne sait ce que c'est, de toute façon, c'est pareil. Je peux te poser la question, de toute façon.
Oui, mais tu remarqueras, à chaque fois, j'oublie de te poser la question. Bon, allez, je vous propose qu'on commence par les chapeaux de roue avec un premier lien sur une news d'un site web qui se sert du WebSocket pour faire du port scanning. Je crois que c'est toi qui as mis ce lien-là, Hubert.
Faut que je mette un chapeau? J'ai pas compris.
Non?
Ok. Il tente de l'humour dans le podcast. Ouais, alors en fait, c'est un lien. Déjà, je vais m'asseoir correctement. Il y a un mec qui a découvert que chez eBay, ils faisaient du port scanning quand tu visitais leur site web. Et donc, pour ça, ils utilisent le WebSocket. Et donc, dans leur page web, tu as un script qui essaye des connexions WebSocket sur plein de ports. Et suivant le message d'erreur ou suivant le temps que ça prend pour fail ou pas, avec des timing attacks, on arrive à savoir s'il y a des ports ouverts, etc. Donc, l'article est intéressant. Ce qui est pas mal, c'est le deuxième article que vous retrouverez dans les show notes où quelqu'un réagit à ça, quelqu'un qui est plutôt sécu et donc qui creuse un peu. Il fait « Mais attends, on peut faire du port scanning, c'est n'importe quoi. » Donc, il s'intéresse au truc. Il ne connaissait pas trop WebSocket et donc il précise… moi, je n'ai pas refait les tests moi-même, mais il précise par exemple que dans Firefox, tu peux faire du WebSocket que sur un site web, sur localhost. Mais tu ne peux pas target une IP en privé, donc le 192.168, slash je ne sais plus combien, bref, toutes ces IP-là, et les IP 10.0, enfin en gros les plages d'IP privées. Par contre, tu peux le faire sur localhost. Donc dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous bossez sur votre laptop, etc., que vous avez des ports d'ouvert sur localhost, quand vous naviguez sur un site web, il peut venir essayer de scanner pour voir ce qui est ouvert et essayer de faire des trucs.
Et du coup, pour faire raccord avec l'épisode de la semaine dernière, quand on a parlé de tous ces gens qui vous ouvrent un serveur HTTP sans authentification en local sur votre bécane, qui du coup se retrouve accessible. Et du coup, c'est le drame. Et donc, encore une fois, ne faites pas ça d'ouvrir des démons qui font des locales HTTP sur la bécane. Je te laisse reprendre.
Non, et surtout
qu'en plus, on utilise leurs produits. Hein.
Ouais.
Oui, on est en plein enregistrement Zoom. Bon, après, ça s'est diffusé broadcast à la fin, quoi.
Non, ce qui est, ça me permet de rebondir sur la semaine dernière, c'est que justement, nous, quand on a voulu faire, par exemple, on a un outil en ligne de commande, quand on a voulu faire la connexion sur notre outil en ligne de commande, ça a été une des idées, quoi. Pendant la connexion, on ouvre un tout petit serveur et en fait, non, il faut surtout ne pas faire ça. Et si vous avez besoin de rebondir entre une ligne de commande et un browser pour faire une danse au hot, c'est possible sans, c'est possible proprement. Et si vous voulez savoir comment on fait, vous nous posez des questions. En plus, notre ligne de commande est open source et on utilise OAuth V1, donc c'est standard. Donc la conclusion un peu.
Si je me souviens bien, nous on fait du WebSocket, c'est ça? C'est la CLI qui ouvre une longue connexion WebSocket, c'est
ça? Non, elle fait du polling. Mais okay. Donc, elle fait la danse au hot et elle polle jusqu'à ce que le site web dise « Bon, lui, c'est lui. » Et il y a l'association entre un ID, un nonce, côté CLI et côté console. Bon, après, c'est pas forcément facile à expliquer.
Mais c'est open source, vous pouvez aller voir.
Voilà. Et donc, la blague. Fin de l'article sur qui réagit un peu à ce port scanning, donc « In protest of the web bulldozer », l'auteur, en fait… rebondit sur toutes ces nouvelles API, WebSocket, WebNFC, Web USB, enfin beaucoup de trucs que Google est en train d'essayer d'apporter au web pour concurrencer le natif, etc. Et il revient sur le fait que quasiment tout le temps, c'est des API qui sont enabled par défaut. Et il rage un peu en disant que, à part les gens sur des Chromebooks, ce n'est pas ultra utile. Et l'exemple qu'il donne est intéressant, c'est celui de la batterie API qui a été introduite, mais qui maintenant est en train d'être retirée. Parce qu'en fait, plein de gens s'en servent pour traquer des gens, et beaucoup plus que pour, je ne sais quoi, et peut-être faire moins de requêtes parce que tu es à 10% de batterie, un truc dans le genre. Voilà. Donc, deux articles intéressants, sachant que le deuxième qui réagit dit qu'il n'a pas réussi à prouver que ça arrivait sur eBay. Après, j'ai vu d'autres articles qui citent tous les sites qui font ça, qui font du pen scanning. Donc, il n'y a pas que eBay. Voilà. J'imagine qu'il y a des extensions pour se protéger de ça.
Il n'avait pas dit qu'il allait continuer en plus à creuser
Possible, ouais. Mais je n'ai pas été surveillé s'il avait publié autre chose.
Okay. Voilà. Une réaction, Victor? Non?
Non, moi, bon, je n'ai rien à dire.
Ok. Je vais à la suite, du coup. La suite, c'est une petite altercation qui a eu lieu sur Twitter. Là, c'est un tweet de Guy Manoumani. Alors, Manoumani, c'est l'un des fondateurs présidents d'une grosse ESN qui s'appelle Open, qui a été patron du Syntec, donc le fameux syndicat des gens dans l'informatique. C'est le vice-président du CNUM, enfin bref. C'est quelqu'un de bien introduit, et c'est sa société en fait qui a gagné le truc du Digital Health Hub. Donc le Digital Health Hub, c'est le truc où on va mettre tous les dossiers médicaux personnalisés, toutes les datas médicales de tous les Français en fait, vont finir sur ce truc-là. Et en fait, ce truc-là, ça fait des mois que c'est en train de devenir un léger scandale dans tout l'écosystème, parce que Azure fait un lobbying et est en train de gagner depuis des mois sur le sujet de réussir en fait à prendre ce deal-là. Et là, il y a eu une fois de plus, à l'occasion de la sortie de Stop Covid, une discussion où Cédric O qui est intervenu pour justifier ce choix-là, et en justifiant en disant globalement, en France, personne n'avait de produit et n'était assez compétent pour prendre en charge les besoins du Digital Health Hub, et que globalement, les Français, on est nuls, hein, les Américains savent faire, quoi.
Les
besoins de volume. Mais... Ouais. Alors que les volumes de ce truc-là sont à se taper le cul par terre. Enfin, bref, y a pas d'enjeu de volume. Et du coup, Tariq Krim avait alpagué Guy Manouani en lui disant qu'il y avait au moins 20 boîtes en France capables de prendre ça. Guy Manouani avait répondu de façon tout à fait désagréable à Tariq que toutes les boîtes avaient été consultées. Sauf qu'en fait, je pense que sur les 20 boîtes en France, un, Clever en fait partie, deux, OVH en fait nécessairement partie. Et en fait, personne n'a été consulté sur le sujet. Donc, on a tous répondu en disant qu'on était assez perturbés par la situation. C'est parti un peu en cacahuète sur Twitter. Mon Twitter est devenu inaccessible pendant 48 heures. Et j'ai un DM là de la patronne du Digital Health Hub qui propose qu'on se rencontre. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont faire les choses bien dans le mauvais sens. Moi, je suis assez catastrophé au global. J'aimerais comprendre pourquoi en France. En fait, moi, je ne vous demande pas d'utiliser, de consommer français. Ce que je demande aux Français, c'est de nous mettre en compétition. En fait, d'arrêter de penser que c'est Amazon ou Google ou Microsoft par défaut, mais de nous mettre dans la compétition. Parce qu'on propose des produits différents, on produit des choses, et jamais on va réussir à rattraper le retard commercial, et pas technologique, mais jamais on va rattraper le retard commercial qu'on a pris si vous nous donnez jamais la chance de jouer, en fait. Ce qu'on veut, c'est tester ce qu'on fait, quoi.
Ça rebondit sur un truc que tu partageais, Laurent, sur le... Oui, mais si vous ne nous choisissez jamais, on ne pourra jamais être au niveau de ce dont vous avez besoin. Et en général, vous choisissez des boîtes qui investissent pas de la même manière en France, qui ont une fiscalité différente. Et donc... Il y a un moment, on va rentrer peut-être dans un débat politique, mais pour ce genre de plateforme aussi stratégique, ça pose quand même beaucoup de questions de pas essayer de faire une décision qui est peut-être un peu plus politique et d'essayer de pousser vers le haut des acteurs européens, français existants. Nous ou les autres, hein, c'est pas tant la question, c'est plus ça finit chez un GAFAM.
C'était ça. Son intervention, effectivement, il se justifie en expliquant que Rendez-vous compte, Amazon investit 20 milliards de dollars dans la recherche et développement. Tu sais, ben, ouais, enfin, en même temps, si vous leur filez tous les projets, et pas en français, de fait, ils vont investir plus. À un moment donné, il faut faire des choix, les gars. Donc, ouais, ça, c'est juste cette question-là qui m'a un peu énervé.
Moi, ce qui m'énerve, c'est la petite musique du « de toute façon, les Français sont pas capables et sont des incapables ». C'est-à-dire que les mecs n'ont jamais rien testé. Ils n'ont aucune putain d'idée de ce qu'on fait comme produit, mais par définition, on est nul. Et comme par hasard, Open, ils sont Platinum, Tagada, Tension chez Microsoft. Et donc, de toute façon, nos produits à nous, ils ne rentrent pas. Et ce n'est pas le seul cas. Hein. Nous, on est sur d'autres cas de contrats avec d'autres sociétés où en face, l'ESN essaye de nous sortir parce que comme ils sont Platinum, Microsoft, ils essayent d'aller larguer du Azure.
On note par ailleurs que certaines ESN refusent de signer des contrats de partenariat avec nous parce qu'il ne faut pas se fâcher avec l'héros.
Ça nous est arrivé. Alors que nous, on en a un très beau contrat de partenariat. Enfin,
malheureusement, il ne faut pas se fâcher avec l'héros. Mais c'est comme ça.
Et du coup, et après, ça me fait penser un peu à ce que tu disais à une époque, Quentin, dans un vieux talk que tu donnais sur le problème du management. Je pense qu'aussi, c'est une question d'habitude. Les gens, ils ont l'habitude de bosser avec ces gens-là. Il y a un écosystème qui s'est formé. Ils n'ont pas intégré dans le calcul. Et donc, du coup.
Puis tu ne te feras jamais virer parce que tu as choisi IBM.
Sauf que c'est ça.
GAFAM au lieu d'être IBM.
C'est un des tweets d'Octave qui résume bien ça. Effectivement, culturellement, il faut choisir américain parce que personne ne va te le reprocher.
Mais si en plus, on ne rentre pas forcément dans toutes les contraintes légales.
Oui, voilà.
En plus, on s'en fiche.
C'est un sujet qui dépasse Clever. Ça concerne toutes les boîtes françaises et c'est un truc culturel.
Même européenne, en vrai. Hein.
Européenne, oui, évidemment. À l'exception de l'Allemagne.
Moi, ce que je trouve cataclysmique, c'est que si tu veux, les Français qui sont comme ça avec leur industrie, moi, je viens de faire un gros projet industriel, l'industrie française, elle marche très bien, elle est géniale. Si on pouvait arrêter de taper dessus, ils arriveraient peut-être à bosser. Tu vois, dans l'informatique, il y a énormément de très beaux projets qui sont français, sauf juste que tu n'as pas accès au marché de base parce que tu es français. Et il y a une espèce de destruction autonome de notre industrie qui, à mon humble avis, est cataclysmique. Donc, encore une fois, je ne vous demande pas d'acheter français, je n'aurais pas ce côté très… Mais juste, essayez ce qu'on fait, quoi. Essayez les produits. Essayez, réessayez-les. Dites-nous ce qui vous manque pour pouvoir utiliser nos produits. Vous n'avez pas aimé la crise du Covid, la façon dont l'hôpital était géré. Bah, c'est très simple, arrêtez d'utiliser des boîtes qui ne payent pas leurs impôts en France. Hein. Les boîtes qui payent leurs impôts en France, elles font tourner l'hôpital public aussi. Enfin, il y a un moment, faut comprendre qu'en tant que nation, on n'est pas juste une somme d'individus. C'est large, une nation, c'est compliqué. Et à mon humble avis, bah, il faut réussir à voir plus loin. Quoi.
Et en parlant de voir plus loin, parlons de Huawei et des Américains et de la Fondation Eclipse.
Ouais, c'est intéressant cet article-là. C'est toi qui l'as mis, Laurent ?
Ouais, c'est… Il y a quelques temps, Eclipse a annoncé qu'ils allaient déménager leur siège des États-Unis en Europe, à Bruxelles très exactement, ce qui est quand même un choix très emblématique de déménager à Bruxelles. Globalement, les mecs annoncent qu'on déménage en Europe, parce que l'Europe, c'est cool. Parce que GDPR, parce qu'on avance sur plein de lois sur l'éthique, en fait, sur la façon dont les gens vont gérer les données privées, dont l'intelligence artificielle va impacter un peu... nos vies, en fait, et ça, on en parlera un peu après. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que ce soit Huawei qui est globalement sous embargo américain. J'ai plus le détail, mais en gros, Huawei ne peut plus utiliser Android parce que c'est Google et que Trump n'était pas content, alors bah, du coup, il n'y aura plus Android. Et donc, tu as un mec de Huawei qui dit c'est cool que l'open source se casse des États-Unis et arrive en Europe, voire même ça nous arrange, en fait. Je trouve ça assez intéressant comme tu vois, c'est. Allons-nous assister à la création d'un bloc open source sans les États-Unis ?
Mais ce qui est hyper intéressant dans cet article, c'est qu'ils te font une éloge de la politique européenne sur l'open source et tout. Enfin, tu as l'impression que, tu vois, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, où tu as l'impression quand tu écoutes que l'Europe, c'est un peu à la traîne, on est un peu à la ramasse au niveau innovation technologique et tout. Et là, tu lis ce truc et tu te dis, mais en fait, ils sont hyper contents de venir, de voir que l'Europe investit énormément dans. L'Union européenne dans des projets open source, qui a un écosystème très dynamique, qui a, qui a justement que tout le monde prend pour une contrainte le règlement de sur la protection de la donnée et tout. Et ben en fait pour eux c'est un plus parce que c'est un cadre restrictif qui leur permet de valoriser le fait que le travail est bien fait chez eux. Donc du coup ils ont une opportunité d'expression par rapport aux autres trucs. Et je casse tout chez moi. Et voilà. Et ça c'est franchement déjà ça fait plaisir de lire ça juste après le petit tweet de et l'intervention de Cédrico et ça change de point de vue là. Et justement, si tu dis, tu te dis,
en Europe, c'est l'Europe, hein, ça marche bien.
Ouais.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que les États-Unis, c'est le pays du patent troll par défaut, ce qui n'est pas le cas en France. Et c'est clair que pour des gens qui font de l'open source, on pourrait dire que la propriété privée et la propriété intellectuelle, c'est important et c'est quand c'est bien géré. Et pas quand c'est géré par des cabinets d'avocats qui n'y comprennent rien et qui servent juste à faire du pognon comme les patents. Je rappelle qu'il y a des boîtes aux États-Unis où le seul métier, c'est d'aller chercher des brevets et de faire du blé sur les brevets. Tu vois. Il n'y a rien d'autre, ils s'investissent. Enfin, c'est des boîtes qui n'apportent rien à la société, globalement. Quand on en parlait tout à l'heure.
Ça me rappelle la série Silicon Valley. Il y avait de bons exemples de ça.
Ouais, ça me rappelle trop mon ancien travail. Mais oui, c'est moi, je trouve ça super intéressant.
Du coup, c'est assez intéressant parce que ce que décide Huawei là-dessus, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des headquarters de grosses fondations qui bougeraient vers l'Europe, comme Eclipse est en train de faire, bouger donc à Bruxelles. Et ça, ce serait très intéressant en termes de recentrage de la décision sur la gestion de l'IT. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense que l'IT européenne peut se construire. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un deal. Et ça, c'est le lien suivant avec OVH. On a lancé un certain nombre de nos produits sur la marketplace d'OVH, qui est un nouveau produit qu'OVH lance. Et donc, vous pouvez acheter sur l'infra d'OVH une partie des produits Clever, donc pas tous encore, hein, mais une partie des produits Clever sont disponibles sur la OVH Marketplace, permettant d'avoir dans votre infra OVH des choses disponibles directement avec du Clever. Et ça, je trouve que c'est cool et c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé quand on a fait ce deal-là. Je ne sais pas si vous avez participé à ce deal-là, Laurent, un peu. Pas beaucoup, Victor, mais…
Non.
Mais Laurent,
j'ai assisté à des réunions. Mais... Et tu peux donner un exemple, Quentin, par exemple, je crois que tu peux créer une base de données ou un truc dans ce genre-là.
Tu peux créer des bases de données, tu peux créer du GitLab, tu peux créer du Artifactory, tu peux créer du Jenkins. C'est globalement la suite d'outils développeurs, ce qu'on est en train de mettre dans Sprint 0 et du DB as a service.
C'est du manager, mais qui tourne chez OVH. C'est du manager Clever qui tourne chez OVH.
Mais tu vois, ce que j'aime bien dans ce genre de deal et tout, c'est qu'encore une fois, ça poursuit encore la discussion qu'on a depuis tout à l'heure. C'est que ça prouve qu'on est en train de qu'on fait des trucs assez intéressants. On est une petite team chez Clever et tout. On fait des partenariats et puis on arrive à faire des trucs plus gros que nous, quoi. En profitant d'une synergie d'équipe avec d'autres gens de VH2, et je trouve que c'est assez cool de travailler avec eux. Ils nous apportent pas mal de choses. Je pense qu'ils sont contents de nous aussi. C'est toujours agréable.
C'est toujours agréable de collaborer tous ensemble.
Voilà, moi je me sens pas du tout en concurrence avec les équipes de là-bas, quoi.
Tu vois, open source dans l'esprit open source, on fait tous de l'inner source et voire plus loin que ça, de bosser ensemble.
Ouais, si on devait collaborer pour faire un data hub européen, pas de souci, on les connaît déjà, quoi.
Par exemple, pour l'instant, on se limite à poc.digital.
Non, mais on va continuer à travailler avec eux et j'espère pouvoir faire des annonces bientôt sur le sujet. Mais on travaille avec eux sur plusieurs idées pour renforcer le cloud européen, en fait, tout simplement. Parce que je pense que c'est aujourd'hui, le cloud, c'est pas des machines, c'est pas des infra. Le cloud, c'est du soft. Et je pense que le point qui est important là-dedans, c'est ce qu'on peut apporter là-dessus. OK. Ensuite, on va vous parler un peu de machine learning, parce que du coup, comme on avait capturé Victor pour cet enregistrement-là, et d'abord, on a un article sur essayer de désenclaver cette idée de black box dans le machine learning, où on dit c'est un algorithme qu'on ne comprend pas, mais globalement, tu fous toute ta donnée dedans et il va faire de l'apprentissage et après, il va te recracher de la data. Victor, est-ce que tu as envie de présenter rapidement cet article-là Donc déjà, ça va venir de arXiv.org. Juste, est-ce que quelqu'un peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que arXiv.org ? C'est un site qui revient régulièrement.
arXiv.org, c'est un site de pré-publication open, donc de publication scientifique. Donc en général, les chercheurs ils publient surtout en machine learning ou enfin, dans le domaine de l'informatique, ils publient pas mal dessus. Et ça permet de publier très fréquemment sans passe. Par contre, c'est pas, y a pas beaucoup de peer review, quoi. C'est pas encore, c'est de la pré-publication.
Alors ça, c'est assez important parce que ça a été beaucoup utilisé aussi dans le cas du Covid. Et vous savez, toutes les études qui s'engueulent, chlorotine, chloroquine, pas hydroxychloroquine, etc. Beaucoup d'études, en fait, sont passées par Arxiv. Et en fait, c'est vraiment la pré-publique. C'est-à-dire que les études scientifiques, elles sont publiées dans des journaux qui font de la revue et qui ont des relecteurs qui sont payés, etc. Genre Science, Nature, sont des grandes revues. Puis, il y a des petites revues. En médecine, il y a le New England Journal of Medicine. Enfin, vous en avez plein. Et Arxiv, c'est là où tu vas caler ton papier avant la relecture des pires. Et donc, c'est à la fois très intéressant parce qu'il y a beaucoup de papiers et en même temps, c'est des papiers dans lesquels il y a des coquilles. Enfin, pour être
voilà. Mais l'intérêt,
moi, c'est dans que... le milieu du machine learning, où c'est un peu devenu la plateforme de publication en vrac. Mais...
ouais, voilà. Ouais. Après, l'intérêt, c'est aussi que c'est gratos. Et donc, tu peux récupérer les trucs facilement et après, tu connais un peu les individus et puis tu peux croiser l'information. Et tout. Et l'intérêt de cet article, enfin, du coup, Quentin m'a demandé de parler de ce que je lisais en ce moment. Et donc, voilà, je lis ça. et j'ai trouvé cet article super intéressant parce que, en fait, Cynthia Rudin, là, elle expose un mythe ou un truc qui est très, très présent dans le monde du machine learning, qui est qu'il y aura une sorte de compromis à faire entre la précision d'un algorithme et l'appréhension qu'on en a. Pas que l'appréhension et la compréhension mathématique, mais la compréhension de pourquoi il réagit comme ça, quelle variable est impliquée et tout ça. Et ce qu'on appelle l'explicabilité ou l'interprétabilité. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans le milieu de l'informatique. Même moi, quand j'ai fait des petites conférences ou des trucs comme ça, on peut voir présenter ce compromis en disant que le but, c'est d'améliorer l'interprétabilité d'un algorithme, mais tout en sachant qu'il y a quand même un trade-off à faire, quoi. Elle a dit que non, pas du tout, que c'est faux, que c'est un mythe, qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas du tout mesurable. Et en fait, cet article est vachement bien parce qu'il présente énormément de concepts qu'il y a. C'est un article du coup qui est bien pour appréhender le domaine, parce qu'il est facile à lire et il présente bien les concepts déjà de qu'est-ce que ça veut dire être interprétable par rapport à explicable. En général, on aurait pu résumer ça en disant que explicable, c'est on prend une boîte noire qu'on comprend pas, un algorithme est hyper complexe pour deux raisons. En plus, elle le dit que souvent les algorithmes qui sont complexes commercialement, donc là on retombe sur les GAFA, les trucs qui ont des brevets dessus, qui vont volontairement vendre des produits à des gouvernements ou à des choses comme ça. Par exemple, il y a un exemple qui vient souvent, c'est à la justice américaine sur la prédiction des récidives. Et en fait, cet algorithme, il peut être très bien approximé par un système expert avec trois règles. Hein. C'est l'âge du détenu, le nombre de fois où il a été en prison et la durée de la prison. Voilà. Et du coup, on va essayer de entraîner un modèle autour de cette boîte noire qu'on peut pas comprendre pour dire, bon, bah, alors si je mets tel type de variable en entrée, qu'est-ce qui va sortir? Et puis, le problème, c'est que ce truc-là, ça permet d'avoir une intuition de ce qui se passe, mais aussi, parfois, tu as beaucoup, beaucoup de biais de confusion. Par exemple, si ton... par exemple, un des biais de confusion avec l'algorithme que je viens de donner, c'est on va retrouver qu'il y a beaucoup de noirs, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de noirs en prison. Et donc, du coup, on va croire que la couleur de peau, ça va jouer sur la récidive. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Et quand tu regardes un peu l'algorithme en détail sur l'algorithme originel, il n'y a pas de notion de couleur, de race, entre guillemets, pour les États-Unis. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut arrêter avec l'explicabilité. C'est bien, ça marche, mais vraiment quand on a des cas très, très précis. Et il faut repasser à l'interprétabilité. L'interprétabilité, c'est l'algorithme qui est transparent. Il faut comprendre pourquoi elle est fait, il est fait. Donc, il y a plein de techniques que je ne vais pas trop détailler, mais qui permettent d'essayer de minimiser le nombre de caractéristiques qui permettent vraiment de le rendre compréhensible à l'humain et d'être capable d'expliquer pourquoi il a pris une décision. Et ça permet d'avoir des algorithmes on va en parler tout à l'heure de plus juste, plus équitable, éthique et tout ça, et d'être vérifiable, les algorithmes peuvent rendre des comptes et surtout, et ce qui est hyper intéressant en plus, c'est qu'elle rentre aussi dans le domaine économique. Elle dit mais comment on peut forcer les acteurs à forcer ça. Donc du coup, par exemple, elle propose de faire des lois qui interdisent de faire des algorithmes obscurs si on peut démontrer qu'on peut faire autrement. Parce que...
Notamment sur tout ce qui va être décision d'accès, peut-être à du crédit, ouais, des choses comme ça, où il faudrait être capable d'avoir un algorithme faire. Et ça, c'est les liens qu'on a mis ensemble.
D'ailleurs, c'est un truc qu'elle expose bien, c'est que le RGPD, il est assez flou sur la différence explicabilité, interprétabilité. Et donc, du coup, il accepte des trucs un peu confus où on va avec parfois beaucoup de facteurs de confusion dans l'explication. Donc voilà. Et donc voilà. Je vous conseille cet article. Il est pas très long à lire, très intéressant, assez riche. Il fait plein de références. Et puis, ce qui est autre chose qui est intéressant, c'est que il donne des exemples où c'est aussi faisable ça c'est un peu plus technique, mais ça peut peut-être intéresser ceux qui font du machine learning plus quotidiennement, sur des données pas du tout structurées comme des images ou quoi que ce soit, où on peut trouver des astuces d'entraînement de modèle avec, où on peut justifier chaque décision par une image préalablement, par exemple un set de données qui contient des chiens, et on va expliquer que bah, cette partie on reconnaît un chien parce que hop, regarde, je te mets à côté à quoi je fais référence quand je vais expliquer mon interprétation. Et c'est plein de choses comme ça qui sont vraiment, je trouve, assez intéressantes. Et en fait, là je peux enchaîner sur la suite si tu veux, Quentin.
Mmh. Ouais, c'est ça le but.
Et en fait, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant que de lire cette semaine, puisque j'ai été ma petite bulle, ma petite bubble filter là d'articles qui passent dans ma timeline en ce moment, elle est hyper chargée en articles et en petits débats sur ce qu'ils appellent le fairness, l'éthique dans machine learning. Je ne sais pas pourquoi ça revient vraiment au goût du jour actuellement. Je pense qu'il y a eu pas mal d'articles ou de problèmes qui sont sortis l'année dernière sur des biais, justement. Donc, du coup, j'ai mis, vous le verrez peut-être, trois articles qui sont un peu techniques et qui sont, à part ça vous intéresse vraiment, pas forcément hyper important de comprendre en détail, mais qui sont assez symptomatiques de comment on s'attaque au problème maintenant. Et en fait, la question actuellement, elle est moins de faire un algorithme hyper précis et performant, parce qu'on arrive déjà à en faire pas mal, mais plutôt comment avoir confiance en les algos. Et là, on a pas mal de techniques sur comment régler le biais et gérer l'éthique et tout. Et ce qui est marrant,
ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça démontre bien que le machine learning, en fait, aujourd'hui, il est utilisé de plus en plus dans des cas qui sont assez concrets dans la vie quotidienne. L'accès au crédit, l'accès à des achats, ce genre de choses. Enfin, nous, on a la chance de faire essentiellement la survie de machines virtuelles. Donc là, on n'a pas nécessairement besoin d'être ni très explicable, ni très juste. Hein, parce qu'on s'en fout un peu. Tu vois, on n'a pas à justifier notre choix de vie et de mort sur une machine virtuelle. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir comment le machine learning, qui était le maximum de l'opacité de la décision, essaie petit à petit de devenir explicable. Parce qu'en fait, on n'est pas capable d'absorber en tant que... En fait, on n'est pas décrit, tu vois. Genre, on n'est pas capable d'absorber la grandeur de l'intelligence artificielle par rapport à nous. Non, si tu veux nous imposer des décisions prises par choix statistique, il va falloir nous les éclairer, quoi. C'est un peu ça qui est chaud intéressant.
Je sais plus où j'avais lu ça, mais c'est pas recevable en tant que preuve. Qu'un algo ait décidé de quelque chose, c'est pas une preuve.
Mais alors, non, c'est pas preuve, en tout cas pas en Europe. Et même si tu peux justement l'expliquer, tu peux dire, bon, alors on a des présomptions, des faisceaux d'indices qu'on pense que c'est telle ou telle feature qui a été prise en compte. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant dans ces articles, c'est qu'il y en a un notamment où ils utilisent le modèle SHAPE, qui est un modèle où ils font varier, enfin une sorte de dérivée des variables en entrée, pour voir lesquelles sont les plus influentes sur le résultat. En fait, il rétro-ingénieur un peu le modèle. Ça marche très bien, mais ça marche très bien pour des résultats précis. Mais tu sais pas du coup l'étendue du truc. Tu sais pas les cas limites et tout. Et alors, c'est marrant parce que du coup, même là où ils essayent d'attaquer le problème, où ils essayent bah, t'as quand même un débat qui est toujours en cours entre ce que disait Cynthia Rudin sur. Ça sert à rien d'essayer de faire ça parce que de toute façon il y a toujours les biais de confusion, et ce que d'autres disent, genre bon, c'est mieux que rien, au moins on arrive quand même à mettre en évidence des pour un cas précis ce qu'il a mis en cause, et donc le débat il est encore vraiment fort, et moi je trouve ça assez intéressant. Et puis il y a encore un autre truc qui est pas mal, c'est que là ils sont en train même de sortir des techniques pour d'enrichissement de la donnée, où donc là on a un paradigme, une approche de la donnée qui change assez, assez fortement. C'est qu'avant, on considérait que la donnée, c'était en gros le savoir, fallait plus que la structurer et l'entraîner, genre que tu l'as nettoyé, tout ça. Et maintenant, on est en train de retraiter carrément les jeux de données. On se dit, la donnée, elle est pas fiable. C'est-à-dire que, par exemple, on reprend les crimes aux États-Unis, où la santé, les données de santé ou quoi que ce soit, on va avoir une préséance d'hommes sur des choses ou des trucs comme ça. En fait, nous, on veut pas ça. On veut, par exemple, une équité dans les genres ou des trucs comme ça. Donc, du coup, ils vont artificiellement restructurer la donnée pour équilibrer les jeux statistiques. Donc là, tu as tout un système statistique un peu complexe pour faire ça de manière bien correcte et pas introduire de confusion. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche sur comment toute une recherche sur comment retravailler ta donnée pour après t'en servir comme source pour ton modèle. Et je trouve que c'est un paradigme qui change un peu parce que avant, moi j'entendais partout me dire bah, la donnée, le savoir est dans la donnée, quoi. C'est elle la vérité.
Donc ça, c'est un mouvement assez nouveau que toi tu observes depuis.
Moi, après, je suis dedans de...
La mise à la mode du mouvement est plutôt nouvelle. Ouais.
Mais là, je vois arriver depuis... dans des articles grand public. Là, c'est des médiums et des two-word data science. Donc, c'est pas...
Mise à la mode ou prise de recul nécessaire aussi, quoi. Il y a un peu ça aussi.
Après, il faut dire que le rapport Villani, là, en 2018, il a pas mal secoué le truc. Là. Donc, c'est... Okay. Et le RGPD a pas mal... mis ça sur le devant de la scène.
En fait, c'est vraiment intéressant parce que le RGPD, c'est vraiment, ce serait bien que vous soyez enfin transparent. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est vraiment, vous, les acteurs du numérique, on vous a laissé jouer, mais ce serait bien que vous soyez un peu transparent sur la façon dont ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, ça manque de transparence et vous mettez en danger la démocratie. C'est ça l'histoire.
Puis, au-delà de ça, enfin, moi, ce que je trouve hyper cool, c'est que même d'un point de vue technique et de recherche, ils nous forçaient à être rigoureux. Et je trouve que la production en qualité de travaux, elle est bien meilleure grâce à ça. Parce qu'on est obligé de respecter des contraintes qui nous forcent à être bon, en fait, dans ce qu'on fait. On ne peut pas moins bullshit. Et moi, je trouve ça très important. Je trouve que tous ceux qui crachent sur la RGPD, c'est du process, c'est chiant, il faut tout documenter. Mais ça nous force à bien travailler, en fait.
Moi, j'ai toujours considéré que le RGPD, c'était une force commerciale pour l'Europe. Et pas le contraire, mais franchement, je pense que ça c'est hyper important à comprendre, c'est que c'est une force en fait. Et si vous le voyez comme une contrainte, c'est que vous avez des choses, c'est que vous avez la flemme d'expliquer ce que vous faites en fait.
Après, pour documenter des trucs RGPD chez Clever, parfois c'est un peu chiant quand même.
Ça prend du temps. Bah, c'est
d'ailleurs, si vous avez les bonnes personnes en ami, je le dis, vous allez voir bientôt apparaître une proposition d'embauche chez Clever à Nantes. On va chercher un responsable de la qualité de la documentation réglementaire. Donc, si vous voyez quelqu'un passer, enfin, l'offre va sortir dans quelques jours, normalement. Voilà. Et donc, on parle de Clever. Petite fonctionnalité Clever utilisée cette semaine, le Force HTTPS. Uber peut-être.
Et oui, donc qu'est-ce qui se passe quand vous hébergez une application chez Clever entre le navigateur web du client et la VM dans laquelle on fait tourner votre app Node, Java, Python, Ruby, tout ce que vous voulez? Il y a un reverse proxy. Donc nous on utilise HAProxy et Sozu qui est notre propre reverse proxy. Et donc récemment on a enfin ajouté dans notre API le fait d'aller configurer les deux types de reverse proxy pour forcer l'HTTPS. Et donc, on a fait arriver la fonctionnalité dans nos deux UI, donc dans la CLI et dans la console web. Et donc, très concrètement, si vous avez une application web hébergée chez nous, vous activez la fonctionnalité avec une ligne de commande ou une case à cocher. Et toute requête HTTP qui arrive sur votre domaine, si elle arrive en HTTP non sécurisé, le reverse proxy, sans même discuter avec votre app, retourne une 301 avec un header location et la même ressource en HTTPS. Alors ça, nous, on s'est arrêté là. Par contre, si vous voulez vraiment sécuriser votre site web et vous intéresser à HTTPS, il reste un peu de boulot. Donc, par exemple, la configuration d'un header HSTS pour que le navigateur ne fasse plus jamais de requêtes en HTTP, potentiellement des upgrades de requêtes avec des headers CSP, etc. Et c'est là qu'on rentre dans un domaine où soit vous prenez vraiment le temps de vous y intéresser, soit vous embauchez un expert sécurité. Nous, on n'est pas allé jusque-là chez Clever parce que suivant les besoins des utilisateurs, ajouter un header HSTS, ce n'est pas anodin. Donc, on a fait au moins cette partie-là pour faciliter la vie sur cette première étape, quoi. Et du coup, c'est une occasion de dire aussi que quand vous mettez un domaine chez nous, enfin qui pointe vers une app chez nous, on configure automatiquement un certificat TLS via Let's Encrypt.
Voilà. C'est simple, une case à cocher. À partir de ce moment-là, tout votre trafic sera toujours redirigé en HTTPS. Donc, comme toujours, on essaie de vous simplifier la vie. Donc n'hésitez pas à le tester. Il y aura un petit article pour expliquer l'histoire d'HSTS, si vous voulez, qui peut être intéressant, ceci dit, pour quand même sauver les URL et les requêtes HTTP qui seraient faites avant redirection. Et c'est la grande idée du HSTS, hein, c'est de supprimer complètement les requêtes HTTP. Mais pour ça, vous avez besoin d'une action de votre côté. Mais ce sera expliqué dans un blog post. L'article suivant, c'est la release 2.6 de Warp 10. Donc Warp 10, pour ceux qui ne savent pas, c'est la base de données time series qu'on utilise chez Clevercard pour faire tourner Metric, le truc qui vous permet de voir en temps réel toutes les consoles, RAM, CPU, etc., mais également la géolocalisation de toutes les requêtes qui sont faites chez vous avec les access logs. Enfin, c'est vraiment le cœur de traitement intelligent de toutes les données sensors comme ça. Et donc Warp 10 est basé entre autres sur la version distribuée sur du Kafka et du Hadoop. Et nous, on l'utilise beaucoup. Et là, dans la version 2.6, ils ont mis des trucs marrants. Ils ont fait un truc vraiment cool qui est le macro value encoder, qui permet en fait de modifier la façon dont on ingère de la data. Avant, c'était que des endpoints HTTP. Et là, en fait, on peut faire son propre protocole TCP pour faire de l'ingestion. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir gérer n'importe quel type d'encodage là-dessus. Et franchement, c'est cool. Donc, tu vas pouvoir gérer comment tu ingères de la data facilement dans le système en étant du coup moins dépendant de Warp 10. Ils ont également mis à jour Accelerator, qui est leur truc. En fait, Accelerator, c'est que tu mets une instance de Warp 10 standalone dans la mémoire vive, et devant et derrière, t'as ta version qui est dans un cluster distribué. Et Accelerator, tu lui dis, tu gardes les 6 dernières heures de data, et puis après, tu mets toute la donnée dans le cluster, mais tu gardes les 6 dernières heures de data dans ta mémoire vive. Et du coup, quand tu tapes sur Accelerator, les 6 dernières heures sont hyper rapides, puis après, le reste, ils déportent les requêtes là-bas. Là, ils l'ont rendu encore plus facile à paramétrer parce que ça date d'il y a une version. C'est vraiment génial ce truc-là. Ils ont également rendu possible la discussion avec les parties directory et store en UDP et en TCP. Ça c'est une ouverture qui est faite de Warp 10 pour pouvoir être plus facile d'utiliser un Warp 10 comme secondary index dans un autre système en fait. Puisque du coup, tu peux aller parler au système de metadata et au système de stockage. Puis après, ils ont mis à jour des fonctions, etc. On n'est pas là pour faire la totalité du truc. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la capacité d'interconnecter avec de nouveaux protocoles qui est mis en place dans cette version-là. Je pense qu'on va y migrer assez vite. Enfin,
moi, avoir des bonnes collages sans doute avec des trucs à nous. Sur un petit truc, le macro value encoder, c'est pas TCP/UDP. Il y a TCP/UDP d'un côté, une nouvelle version. Et macro value encoder, c'est le fait de pouvoir traiter de la donnée à l'ingestion, lui faire un traitement, lui appliquer une macro en fait. Et moi, c'est surtout ça que j'attends en vrai, parce que c'est surtout là-dessus que je travaille. Et j'avoue que j'ai assez hâte de jouer avec. J'ai pas encore pris le temps, mais j'ai pas mal d'idées sur comment distribuer de la donnée, la traiter et la matcher avec d'autres trucs en même temps. Enfin, voilà.
Pour la ranger, par exemple, à l'entrée.
Exactement. Quoi. Et directement à la gestion, comme ça, on n'a pas à faire de retraitement après ou trucs comme ça. Donc, après, c'est nickel. Gagne du temps, ça marche bien. Voilà.
OK. Vous avez des questions sur Warp 10 ou pas, les gars? Non. Cool. Tant qu'on parle de traitement du signal, du coup, un vieux truc qui a été déterré dans ta TL, Victor, une capacité à lire le son en observant les vibrations. C'est ça.
Ouais, ça c'est surtout parce que c'est marrant. Ça m'a fait rire parce que je trouve ça hyper impressionnant. C'est un truc qui date de 2014 quand même. Et en fait, c'est des mecs du MIT qui ont mis en évidence qu'il était possible de juste avec une caméra haute vitesse de déduire par le mouvement, les micro-mouvements des objets filmés. Et c'est des mouvements qui sont induits par la vibration du son quand on parle. De déduire le son. Alors ils ont fait des démos où t'entends tu arrives à reconstituer des discours, des chants ou de la musique. C'est hyper impressionnant. Alors en vrai, c'est beaucoup moins efficace qu'un micro laser, hein. mais le laser, il est pointé sur le truc, c'est beaucoup plus précis. Mais ouais. C'est hyper impressionnant parce que déjà c'est vieux, c'est des caméras qui datent de 2014, donc ils font ça assez lourd. À travers des grosses vitres. Enfin, c'est franchement, ça m'a un peu bluffé. J'ai essayé de trouver plus d'articles sur d'autres mecs qui avaient fait ça. J'ai pas trop trouvé. Et puis le traitement est tout bête en fait. Il décompose la vibration de l'objet en fait et ça transforme en vibration. Enfin, il calcule les deltas des micro différences de position.
Et puis après, tu dois appliquer un traitement en fonction du matériau, ça, voilà, potentiellement, et puis basta. T'es...
Et bon. C'est
assez... Allez voir la vidéo, la vidéo est rigolote. Donc, t'as effectivement le micro à l'intérieur et ensuite le son à interpréter, et tu vois bien la différence. Et c'est
ça se comprend bien. À chaque fois, ils mettent une musique pourrie en plus, mais.
Ne jugeons pas.
Non, mais.
Eh bien,
non,
à propos de musique pourrie, un article de. Non, c'était pas bon comme transition.
Non, la musique pourrie, ce sera pour la fin.
Ça dépend qui est tiré au sort. Ça dépend qui est tiré au sort. Non, un article de Philippe Charrière sur l'utilisation de GitLab CI pour faire des déploiements. Et donc, pour ça, il utilise notre CLI dans Docker. C'est bien ça, Hubert ?
Ouais, en fait, donc notre CLI, elle est codée avec Node.js en JavaScript.
Et elle est open source.
Elle est open source. Bon, on l'a déjà dit une autre fois. Et donc, ouais, elle est open source sur GitHub. Elle est codée avec du JavaScript en Node.js. Donc, vous pouvez l'installer avec NPM. Par contre, ce qu'on a fait depuis assez longtemps, en tout cas, c'était un peu le cas avant que j'arrive et on l'a un peu modernisé, on a un build vers un binaire. Alors, bon, à l'intérieur, en fait, il y a encore Node.js, mais c'est auto-packagé en un seul binaire, et on le déploie via des paquets AUR pour H Linux, via des paquets dev pour développer Ubuntu, via des paquets RPM pour toute la famille de CentOS, Red Hat, Fedora et compagnie. Que je n'en oublie pas, on publie pour Exerbo, notre distrib Linux chéri. Et on a récemment, donc il y a un an,
Chocolaty et Brou.
Ah, j'ai oublié. Voilà, on publie aussi des paquets NuPKG pour être installés sous Windows avec Chocolaty.
Et pour OS X. Et Brou pour OS X. Ouais, voilà. Et également un packaging, un auto-package sur Docker, c'est bien ça?
Et donc, ouais, il y a un peu moins d'un an, ce qu'on a rajouté, on l'a fait aussi dans le cadre de l'arrivée des GitHub Actions, donc Laurent va en parler, mais en gros, on a une image Docker assez légère, tant qu'on peut avec Docker, qui contient essentiellement notre CLI. Et donc, dans l'article de Philippe Charrière, on retrouve un exemple de GitHub CI pour automatiquement créer une application, l'instancier, la déployer. Et ça reprouve une énième fois qu'en fait avec notre CLI, que ce soit nous en interne ou des clients, on peut s'en servir pour faire des preview apps et instancier une app pendant la durée de vie d'une branche, d'une future branche, et que l'application soit auto-supprimée à la fin. Nous on l'utilise sur plusieurs projets et on a d'autres personnes qui le font, que ce soit via GitLab CI ou toi Laurent tu l'as testé avec des GitHub Actions, je crois.
Ouais, en fait, on est plusieurs à faire GitHub Action. Il y a plusieurs récipes si vous cherchez sur GitHub font usage de ça. Alors, pas forcément de cette image directement. Des fois, ils font juste un npm install global de CleverTools. Ça dépend. Mais effectivement, c'est un use case qu'on commence à avoir de plus en plus, où les gens utilisent CleverTools pour faire leur déploiement dans les scripts de CI, puisque finalement, la plupart des jobs des outils de CI maintenant te font faire du shell directement. Donc, ça marche.
Et là-dessus, on est vraiment dans une démarche d'améliorer au fur et à mesure notre ligne de commande qui est autant à destination des robots que des humains, et essayer d'améliorer de plus en plus son usage et son ergonomie dans des scripts de CI. Et donc, si vous avez moins de problèmes avec ça, créez des issues dans notre GitHub, on en discutera et on essaie d'améliorer tout ça au fur et à mesure.
Ok, cool. L'article suivant, on est sur Gatsby, le website builder qui a levé 28 millions de dollars. Il y avait Nuxt aussi qui avait levé de l'argent. Tout ça, c'est plutôt les news que tu avais regardées, Laurent ?
Deux ou quatre, ouais. On suit un peu le sujet avec Hubert. Il y avait Strapi aussi. Il ne faut pas oublier Strapi qui avait un peu d'argent aussi. Tu vois.
Et Nuxt, ils ont levé 2 millions.
Et ouais, c'est cet écosystème de génération de sites plus ou moins statiques.
Du coup, on peut héberger chez nous.
Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à la base, c'est des projets open source créés par des gens, des personnes en mode à côté de leur travail. Puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils investissent de plus en plus de temps là-dedans. Et à tel point que, enfin, moi, Gatsby, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'étais assez étonné qu'un produit dans ce genre-là, ça a quoi, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus trop, peut-être un peu plus maintenant. Et là, on en arrive à une boîte qui est valorisée, qui lève des fonds. Et du coup, là, moi, je m'y connais moins. Laurent, c'est quoi derrière les potentiels de business?
C'est quoi le business model? Ah, c'est une bonne question, tu vois.
C'est un peu comme Wix, non? Tout ça.
Bah alors justement, tu vois, c'est...
Dans un des articles, ils en parlent, ouais. De Wix.
Ils en parlent. En fait, la... soit c'est trop simple et trop à destination de tout le monde, entre guillemets, et donc ça va être le corollaire Wix. Mais les mecs font une thune monstre et ont énormément de parts de marché. Soit c'est trop compliqué et t'as besoin d'un truc entre les deux, et a priori le but de ces boîtes là c'est d'arriver à choper le entre deux. Il n'y a pas que ça, hein.
T'es le vrai compétiteur en fait de WordPress, ça va être quoi? Ça va être Webflow, et les autres vont essayer de se trouver entre les deux, c'est ça?
Ça va être Strapi, enfin j'espère pour eux. C'est intéressant comme positionnement, parce que Strapi en plus se positionne sur une notion de marketplace aussi. Le but juste d'avoir un écosystème open source très 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 fort, plein d'users. Et ensuite, un écosystème qui se monte autour de gens qui vendent des plugins, qui vendent des thèmes, etc.
Ça, c'est du WordPress, quoi. Hein.
Et effectivement, de vendre de l'hébergement derrière ou des choses comme ça. Après, on verra, hein, c'est le début. Il y a encore pas mal de choses. Enfin, ils ont le temps de pivoter, tu vois. Pour l'instant,
oui, voilà.
Moi tu me dis, en 2020, je vais lancer une marketplace. Le nombre de levées de fonds qu'il y a eu sur les marketplaces et les échecs que ça a été, tu vois, c'est un peu flippant.
En marketplace logiciel comme ça, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu flippant.
Ça a été rude. Par contre, il y a un vrai momentum sur le site statique. Là, tu regardes le succès de Netlify, tu regardes le succès du coup de Wix et des choses comme ça. Ouais. Et voilà, c'est pas ils sont en train de monter en même temps que les FAS. Et tu peux complètement imaginer des sites web qui étaient entre guillemets compliqués à faire, qui seront plus évolués que tu peux faire avec Wix, mais qui resteront dans une certaine simplicité, puisque tu pourras quand même appeler un certain nombre de fonctions et ta prod, ce sera juste un site statique et on n'en parle plus. Et l'avantage du site statique en termes de déploiement, en ce moment tout le monde parle de Edge, tout le monde parle de, tu vois, Cloudflare, je crois qu'ils ont relevé encore plein de thunes Cloudflare il n'y a pas très longtemps, sur ces envies-là et ces idées-là, ça devient plus simple en fait de déployer du statique en Edge et d'appeler des fonctions en Edge que de te caler ton JBoss partout, quoi, en fait.
Ouais, déployer du statique en Edge, oui. Les fonctions en Edge, pour l'instant, c'est assez…
T'as les cloud workers chez
Cloudflare. Ouais, et encore.
Il y a
un gros boulot encore.
C'est en train d'arriver. Les trucs sont en train de monter en même temps parce qu'il y a volonté de faire ça. Et c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois quand tu vois la tronche de l'architecture from the book, by the book de AWS Lambda. Putain, en fait, ça n'a pas l'air si simple que ça, en vrai. Mais par contre, tu sens bien qu'ils ont pris le pli de déployer juste du statique en Edge à coup de S3, de CloudFront et de choses comme ça.
Et du coup, moi, l'autre chose que je vois dans cette news, c'est aussi le retour de la saison, c'est-à-dire que tout le monde s'était un peu frisé pendant le Covid. Et là, c'est des deals qui ont probablement été négociés avant le confinement mondial. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont été négociés, signés et transférés, mais a priori avant quand même. Et là, on voit arriver la levée de fonds également de Sagi. Donc, les copains normands de Sagi ont levé 25 millions pour poursuivre leur croissance sur la big data. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à en dire. J'ai trouvé que le communiqué de presse était très… on va poursuivre le déploiement de la boîte. La vie est belle, un truc
c'est
comme
la
ça.
Suite, voilà, suite as usual. Après, est-ce que ça a été fait pendant ou avant? Tu vois, Cashbase, des mecs, bon, il y avait un peu storytelling, j'imagine, mais les mecs ont dit que ça a été signé pendant. Et c'est vrai que là, globalement, depuis mi-mai, on commence à avoir tout un tas d'annonces.
Mais je pense qu'on a une partie qui avait été négociée largement avant.
Mais je sais pas si c'est juste moi qui perçois de mon côté des trucs bizarrement ou si c'est une réalité de l'écosystème, mais j'ai l'impression que le confinement, tout ça, ça a quand même. Enfin, ça a mis le data, le numérique, le cloud et tout au cœur de plein de choses. Quoi. Ça, je pense
alors,
qu'il y a un énorme intérêt.
200% avec toi, oui. Donc, le numérique au cœur de plein de choses, mais les VC, eux, par contre, tirent leur argent des fonds traditionnels et des fonds qui sont très brick and mortar du reste.
De l'économie réelle.
Ils sont en train de prendre de l'autre côté, si tu veux.
Ouais, mais c'est vrai, mais
les VC lèvent facilement. Là.
Mais tu vois, quand tu regardes un peu le cours de la bourse, c'est un peu pété la gueule au début. Puis finalement, ça a un peu rattrapé sur la fin du confinement. Et le peu qu'a et le en sur les grands sur les grands sur les grandes les grands comptes. Hein. Et je pense que le peu qui a été investi, ça a dû quand même vachement être réorienté vers le numérique, parce que, enfin, tu vois, par exemple, Wix, tout ce dont on parlait là sur les sites statiques, genre toutes les, ouais. Toutes les petites boîtes, les mecs qui n'avaient pas de site ou des trucs comme ça et qui ont voulu faire du e-commerce vite
fait. En fait, on ne te dit pas que le numérique se développe pas. Ce n'est pas ça que je te dis. C'est le secteur de la levée de fonds. Le secteur de la levée de fonds, il a besoin pour ça du business. En fait, si tu veux, les levées de fonds, elles viennent d'argent des assureurs, des banquiers, des fonds souverains, etc. C'est-à-dire de fonds qui donnent beaucoup de thunes, qui ont énormément de thunes sous gestion et qui prennent l'épaisseur du trait et le mettent dans du VC. Chez ces fonds-là, il ne va pas y avoir d'épaisseur de trait. Les 5 ans à venir, là, on va manger le pain noir de la pandémie d'un point de vue économique, et chez ces gens-là, il ne va pas y avoir d'épaisseur de trait. Donc, ça ne va pas être facile, et je pense qu'on va voir des firmes de VC disparaître dans les prochaines années parce qu'ils ne vont pas réussir à relever. Je pense que ça va être compliqué comme marché. Je ne parle pas du secteur du numérique, je parle vraiment du secteur de l'investissement VC, tu vois.
Après, je sais pas d'où ils ont tiré leurs fonds les deux autres là, mais par exemple, Sagi, c'est pas des
non, c'est pas maintenant le problème. Eux, ils ont des fonds aujourd'hui, les VC. Les fonds, ils ont été signés. C'est les prochains fonds qui vont être compliqués à signer. Et donc, la totalité des investissements vont se ralentir là. J'ai compris. Tu vois.
Le corollaire de ça, c'est que l'effet de la crise du Covid, quand l'économie réelle va être rattrapée par ça, on va le voir arriver en septembre globalement. C'est jusqu'ici tout va bien à peu près, puis après, tu vois, les aides petit à petit diminuent. Les matelas des gens diminuent et la vraie claque, la vraie crise, en fait, parce que là, tout le monde te dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est la crise, dépensez votre épargne et retournez travailler. Les effets qu'on va voir arriver, ce sera à la rentrée. En » fait.
Tu vois, là, à midi, je bouffais avec une boîte du numérique avec qui je discutais. Moi, je disais bah, « Vous, vous êtes une boîte du numérique, je suppose que c'est comme nous, vous êtes en croissance et puis la vie est belle. » Ouais, nous, on avait quand même 30% de notre chiffre d'affaires dans le tourisme. Hein.
Toi, c'est là, ça, discuter avec des copains dans l'hôtellerie. Tu vois.
Et pourtant, c'est un sas. Hein. Ouais.
Tu vois. Ouais, voilà. C'est pas l'hôtellerie, mais les potes avec qui discutent dans l'hôtellerie, ils s'attendent à faire des charrettes en septembre. Tu vois.
Et c'est pas si simple que ça. Quoi. Et du coup, si tu veux, l'effet dans le secteur VC va être à retardement, mais on va commencer à le sentir sur les levées de fonds qui vont commencer à ne pas se déclarer maintenant. C'est-à-dire que là où avant tu pouvais parier dans des conneries, tu vas peut-être moins parier dans des conneries parce que ton fonds 10 ans, va falloir que tu le tiennes 12 ou 13. Parce que.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'était déjà le storytelling de l'article de Cashbase la semaine dernière où les mecs te disaient nous, on n'a pas fait des projections de Mabou, on a été hyper transparent, hyper honnête, on est déjà rentable et on a expliqué ça au VC. Et les gens sont déjà dans cette démarche-là, un peu plus. Que ce que ça a pu être il y a quelques années. Ça commençait déjà à arriver avant.
Allez, on se dépêche parce que sinon on va se engueuler par les auditeurs qui vont trouver qu'on est lent. On va parler un peu de web. D'abord, la première news rapide, c'est que Microsoft bosse très fort sur un truc qui s'appelle Blazor. C'est du WebAssembly et c'est pour faire de l'interface web en WebAssembly avec du C# et vraiment réutiliser la capacité de dev en C# WebAssembly. Je suppose que personne dans la team l'a testé. Du coup, je propose que, hormis dire que la vague WebAssembly continue à progresser, on passe à la suite, mais dire que c'est quand même assez intéressant de voir que ça existe. Et si quelqu'un est habitué à faire du .NET, c'est, je pense, intéressant d'aller voir ce qui se passe là-dessus, quoi. OK, et on passe à la suite du web. La suite du web, c'est Deno.
Moi, je suis venu que pour entendre Hubert parler de ça, en fait. Hein,
alors, Deno, d'abord. Alors, Deno, moi, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté années 90 dans l'argot. Parce que Deno, en fait, c'est Node en Verlan. Et Deno, c'est quoi? Alors, d'abord, le premier lien pour parler de Deno, c'est que vous pouvez déployer en Deno sur Clever Cloud. On a fait un article. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que Deno? Qui veut répondre à la question qu'est-ce que c'est de Deno? Peut-être Hubert direct, on passe la parole après. C'est quoi Deno? Genre, stricto sensu tout de suite. Hein.
Alors déjà, il y a débat sur la prononciation. On va dire que
coupe la bullshit.
Non, mais les anglophones commencent de plus en plus à dire Dino, en particulier l'équipe Core, et d'où le branding autour du dinosaure. Mais on va dire Deno en France et ce sera très bien. Sinon, on va passer pour les... Oui, on dit pas comme ça. Enfin, non. Deno, c'est quoi? En fait, il y a un peu plus de 10 ans, sort Node.js, un runtime serveur basé sur V8, un runtime JavaScript côté serveur basé sur le V8, le très récent à l'époque moteur JavaScript de Chrome. Et il y a 2 ans, donc le créateur de Deno, Ryan Dahl, publie une vidéo.
Était le créateur de Node, en fait, qui s'est plus ou moins fait sortir de la communauté Node.
Oui, qui est resté peut-être jusqu'en 2014.
Ouais, mais en fait, assez rapidement, la communauté lui a montré la sortie, quand même.
Ouais. Et donc, il y a 2 ans, en gros, il fait une vidéo. Il dit 10 choses que je regrette avec Node.js. Ok, intéressant, pas intéressant. En tout cas, on peut débattre de ce qu'il considère être des erreurs qu'il a fait ou des problèmes qui existaient ou qui existent encore. Et sur la fin de la présentation, il dit, bah, en fait, maintenant que j'ai dit ce qui n'allait pas, bah, je vais vous montrer, j'ai commencé un nouveau projet. Et donc ça a mûri pendant 2 ans et ça s'appelle Deno. Donc Deno, qu'est-ce que c'est ? C'est un runtime JavaScript. Je vais trouver. C'est un runtime JavaScript qui est basé sur V8. Tiens, mais ça ressemble vachement à Node.js. Techniquement, toutes les parties qui sont pas qui sont codées, on va dire en langage compilé, etc. Ça ne va plus être du C++ sous le capot, mais ça va être du Rust. Clairement, je pense que 90% des utilisateurs ne verront jamais la différence. La technologie d'Event Loop, c'est plus libuv, c'est Tokyo. Encore une fois, je pense que la plupart des gens ne verront jamais la différence. Sentez que je commence à être un peu énervé. Ensuite, sur une des grosses différences côté utilisateur, c'est le fait que Deno package le compilateur TypeScript. Et que par défaut, tu peux faire deno monfichier.ts. Il va auto-compiler le TypeScript en JavaScript. Il va le cacher quelque part sur le disque dur. Il va même cacher, si je ne dis pas de bêtises, la version pré-compilée binaire pour V8, un truc dans ce genre-là, mais ça, je n'ai pas vérifié. Et il va le run dans V8. En gros, c'est à peu près ça. Après, quand on commence à gratter, la deuxième grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de système de je fais un npm install, je prends un binaire qui vient d'un repository, il arrive dans un dossier, les non modules, et ensuite je fais un require ou un import du nom de ce module, mais je fais des imports directement depuis des URL.
Ah, trop bien. Je veux dire, ça s'était tellement bien passé la première fois quand on avait fait ça en Go. Non, c'est je veux ça. Dire, c'était quand même tellement le plaisir. Quoi.
Mais donc, en gros, Deno,
c'est pas limité à l'étable.
C'est ça, c'est un runtime, TypeScript, enfin JavaScript, et avec une autocompilation du TypeScript en JavaScript à la volée. C'est hyper important parce qu'il y a énormément d'articles que je lis où ils font « Ah, c'est un runtime TypeScript ». Alors, moi, j'aime bien chipoter, ce n'est pas un runtime TypeScript, au sens où ça a les mêmes problèmes que si vous aviez pris une demi-heure à configurer votre compilateur TypeScript. Oui, j'en vois du sel. Mais dans les faits, c'est ça. Donc, ça améliore un peu l'expérience de développement. Mais on peut se poser la question, de par le manque de respect de semver du compilateur TypeScript, de problèmes qui pourraient apparaître. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand il y a un nouvel acteur qui arrive dans ce genre de domaine, bah, ça booste un peu la compétition, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il apporte de nouveau. Et en fait, je ne comprends pas la hype. C'est-à-dire que moi, je l'ai testé, ça marche, c'est plutôt cool. Il y a plein de points que j'ai envie de critiquer. Mais plus exactement, je ne comprends pas toutes les communications, les articles qu'on voit sur « Ah, c'est génial, ça révolutionne ». En fait, non, quand tu grattes, ça ne révolutionne pas tant que ça. Et par exemple…
Ah si, regarde, c'est génial, tu n'as plus de package manager.
Ben, et du coup, on vous a partagé dans les show notes, vous verrez, au-delà de l'article qui explique comment déployer du Deno chez nous, un article de Kitson Kelly, donc, qui est dans l'équipe Core, et un podcast où le même Kitson Kelly se fait interviewer par les deux hosts de JS Party, c'est en anglais. Et en fait, c'est hyper intéressant de comprendre comment le projet est né, comment il fonctionne. Ce qui m'embête, c'est que sur le Discord Deno, sur le Reddit Deno, sur Twitter, on voit plein de « Ah, c'est génial, ça révolutionne la vie, ça fait ci, ça fait ça. » Et typiquement, par exemple, il y a des gens qui comparent et qui disent « Bah, en fait, avant, dans Node, c'était du require. » Alors que dans Deno, c'est des imports standards JavaScript. Et là, mais en fait, tu es en train de repomper ce que tu as lu sur le site. Alors que si tu grattais 2 secondes, tu saurais que dans Node.js de en version 12 avec un warning, en version 14, etc. Tu fais des imports ECMAScript 6 de la même manière que dans Demo. Donc là, quand tu commences à gratter, à voir qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent, en fait, il y a, sous le capot, c'est fait en Rust, donc on pourrait argumenter que c'est mieux. J'imagine que oui, mais même ça, c'est toujours difficile à savoir. Ils ont un support automatique du TypeScript. Je pense que c'est une mauvaise idée de coupler les deux. Pour ceux qui ont déjà vu mon talk l'année dernière sur les frameworks, je pense qu'on est dans le cas d'une télémagnétoscope où on est en train de packager les deux. Vous savez, les combos télémagnétoscopes des années 90, c'était vachement bien.
C'est surtout que ça avait une sale idée en direct. Parce qu'en fait, TypeScript ne respecte pas SAMVER. Donc, commencer à faire ta numérotation de version, ça va être tout un dossier quand même. Tu te retrouves avec des cas complètement cons. Quand tu te mets à bundle beaucoup de trucs, tes numéros de version deviennent assez incohérents parce que tu te mets à faire des numéros de version de release train et plus des numéros de version SAMVER logique. Et pour moi, un runtime, ça doit pas être une release train, ça doit être un truc assez logique puisque après, toi, tu construis au-dessus, donc il faut que tu saches quand est-ce que tu as pété ta compat. C'est mon humble avis. Donc, tu vois,
La grosse différence, c'est que JavaScript, à deux exceptions près, n'a jamais remis en cause une seule de ses syntaxes depuis 25 ans. Les exceptions, c'est l'ajout du mode strict qui t'empêche de faire des choses que tu pouvais faire avant. Mais dans un browser actuellement dans Node, tu peux toujours runner en mode pas strict. Et techniquement, quand tu es dans un import, dans un module avec MyScript 6, c'est par défaut en mode strict. Et il y a quelques règles en plus. Mais techniquement, ça reste un langage qui a une cross-compatibilité qui est sidérante. Je parle juste du langage. Après, sur les API fournies par Node, bien sûr qu'il y a des choses cassantes, mais ils respectent quand même plutôt bien SAMVER et leurs changelogs sont hyper lisibles. Et donc, quant à ce langage qui est assez quand même pérenne dans le temps dans ce que tu peux coder, versus là, tu vas directement importer des dépendances en TypeScript. Et donc, potentiellement, toi, tu as codé du TypeScript qui est valide avec la version 3.8, 3.9. Tu as même configuré, parce qu'il y a pas mal d'options dans le compilateur TypeScript. Et d'un coup, tu importes des dépendances qui ont peut-être besoin d'un flag de compilation dont tu n'as pas besoin, toi, etc. Tu vas t'inventer des problèmes que tu n'avais pas quand tu faisais du TypeScript et que tu importais des dépendances qui étaient de NPM, qui étaient potentiellement déjà en JS avec des types ou qui étaient en TS. Et où tu maîtrisais un peu plus les sources. Quoi. Voilà.
Ouais, enfin, de toute façon, sur les dépendances, on peut avoir un sujet qui est pourquoi virer le package manager. Enfin, je ne comprendrai jamais les gens pourquoi ils font ça. Enfin, les gens comme. Alors, ça, c'est la grande idée de Google, c'est qu'il faut supprimer le package manager, c'est un problème trop compliqué à résoudre, du coup, on le supprime, donc on fait monorepo et tout le code nous appartient, donc on fait go et on importe directement via des URL parce que fuck la life. Tu vois, et du coup. Moi, je comprends pas ce dossier-là. En fait, il y a toujours un moment où tu as besoin de résolution de dépenses et de gestionnaire de paquets. Et non, mais en vrai, c'est complètement con. Enfin, il y a toujours un moment où ça finit ça. Regarde Go, ils en sont revenus à en produire un. Tous les langages réécrivent leur propre package manager alors que c'est complètement con. Genre, unpopular opinion, vous voulez pas juste tous utiliser Gradle? Je pense qu'en vrai, c'est le package manager le plus complet du marché. Il vous permet de tout faire. Vous avez juste à aller insérer votre compilo dedans, faire des plugins et ça avance. T'as un système de plugins, t'as un système de gestion variable de dépendance en fonction de la SAMVER, t'as un log file, t'as absolument tout ce que tu peux demander à un système de paquets. Faut juste le configurer pour faire ton truc. Voilà.
En tout cas,
je suis pas en train de défendre NPM, hein, mais je comprends non, vraiment non, pas en fait, la volonté c'est ça, d'aller s'écrire son propre truc. C'est ça du coup, il y a déjà des mecs qui sont en train de faire leur propre système, non, je suppose.
Voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant sur et ce système-là. Hein. Parce que moi, j'utilise Node.js depuis des années, que ce soit pour lancer des outils en ligne de commande pour faire du front-end ou pour faire du back-end. Bien sûr que le registry NPM a des problèmes en termes de gouvernance, ils en ont amélioré d'autres, il en reste. Bien sûr que le système de CLI NPM, on peut changer par Yarn ou plein d'autres, a des problèmes. Mais là, la réponse, ça peut pas être bah, du coup, on enlève tout. Et ce qui est intéressant donc, dans l'article Demo is a Browser for Code, c'est que Kitson Kelly a une manière très construite et intelligente de défendre ce point de vue-là. Et limite, bon, bah, c'est son avis. Lui, il pense que si on veut décentraliser, il faut ne pas avoir ça, etc. Moi, je pense qu'ils vont trop loin dans le. Bon, bah, ça, c'est un problème, du coup, on fait vraiment pas de registry ni de package manager, etc. Sauf que dans les faits, bah, quand on gratte, en fait, il y a déjà une convention qui s'est mise en place dans la communauté où au lieu d'avoir un package JSON avec des noms de dépendance, les gens créent des deps .js ou .ts qui contiennent en fait les imports vers les URL des fichiers que tu veux utiliser. Et ensuite, dans le reste de leurs applications, ils importent ce fichier-là. Donc, ils ont transformé un fichier déclaratif, pareil, on peut remettre...
En pré-processing à l'exécution. C'est des pré-processeurs de code à l'exécution. C'est
ils
beau
l'ont transformé
comme idée.
En un fichier de code, en fait.
Ouais, mais c'est comme des pré-processeurs de code, mais à l'exécution runtime.
Donc, bon, c'est...
Ah, c'est beau. Toute la beauté de C, tu vois.
C'est assez... voilà. Et donc, en grattant, techniquement, donc il y a des gens qui ont commencé à créer des package managers. C'était évident et ça va mûrir. Et si le projet prend vraiment de l'ampleur, on va se retaper une boîte privée qui va essayer de monétiser tout ça. Enfin, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Ça n'arrivera peut-être pas. Il y a un autre truc, c'est que sur deno.land, le site officiel, il y a deno.land/x, qui est en fait un Yahoo de 1999-2000, qui est un registry de package qui est managé par une liste dans un JSON ou je ne sais pas quoi, sur laquelle tu peux demander à être sur GitHub. Donc, en fait, il y a un décalage dans leur discours, dans ce que la communauté répète comme des perroquets, qui m'énerve beaucoup. Parce qu'au-delà de ça, si on enlève tout ça, moi, je trouve ça intéressant que quelqu'un propose une alternative.
Mais après, ça peut être juste un peu jeune et que c'est la hype du moment parce que les gens, ça leur change de node et puis c'est un peu frais, un petit peu d'air frais et tout, c'est bien.
T'as un mélange de
la nature. Et puis dans,
c'est du rust.
Puis c'est du rust. Puis dans 6 mois, 1 an, quand ça sera un peu tassé tout ça, bah, il ne restera que les trucs cool et puis ils vont améliorer leur...
Voilà.
Ils sont plus obligés de demander à GitHub pour avoir ton truc.
Et c'est,
non, mais
c'est ça qui
est énervant sur les lancements de langage, c'est de voir les patterns. C'est-à-dire, il y a un moment, tu lances un langage, tu ne mets pas de package manager avec, c'est la cata. Et l'un des trucs qui fait Rust est cool, c'est qu'il y a Cargo et Rustop de fourni. Et très sincèrement, Cargo et Rustop font partie des meilleurs build toolchains. Mais pourtant, en vrai, Rust aurait commencé par dire on est compatible Gradle. Mais je disais, mais oui, 2000 fois oui. Mais arrêtez de réécrire ça en boucle.
Je te propose d'ouvrir une issue sur
toujours les mêmes questions.
Ah, mais c'est intéressant.
Ça ne marchera jamais, c'est du Java, les mecs vont pas vouloir.
C'est un problème, il y a deux problèmes. Il y a la nature hors du vide et les devs ont un problème d'ego et veulent réécrire des trucs. Dans ta carrière, tu vas être amené à écrire ton propre CMS, tu vas être amené à écrire ton propre compilo, tu vas être amené, suivant la sensibilité que tu as évidemment. Si tu t'appelles Geoffroy Coupry, tu vas tout faire. Ça dépend. Et le fait est que bah, c'est un ensemble social, la nature hors du vide et les gens ont un ego. Donc vas-y, ça me fait marrer. Moi, je vais réécrire ça parce que de toute façon, j'ai envie. Et parce que
tu vois, après ça te donne NPM et merci du cadeau quoi.
Bah ouais, j'aime bien écrire des tickets pour que les autres codent.
Non, parce que nous on doit les manager les conneries, enfin nous on les manage en fait les conneries à la NPM, tu vois. Et franchement, enfin, quand tu prends l'écosystème Python où t'as on est à 4 package managers à peu près majeurs aujourd'hui en Python et il y en a pas un pour rattraper l'autre.
Il y a
PHP qui a mis 6000 ans à nous pondre quelque chose qui commence à se stabiliser, mais pareil, tu n'auras pas de plugin, tu n'auras pas machin, enfin, il manque tous les raffinements. En Java, oui, en vrai, Maven était stable, on est passé à Gradle. Gradle est en train de gagner du part de marché. Gradle, je trouve que c'est plutôt bien réfléchi. Après, c'est parti en couille dans 2-3 langages, genre SBT, dans l'écosystème Scala. On s'excuse. après, on n'a toujours pas réussi à faire comprendre à l'écosystème Scala. Il fallait arrêter sur SBT, mais je ne désespère pas. Hein. Mais il y a quand même une série de langages dans lesquels c'est une catastrophe. Quoi. Enfin, Ruby Gem, c'est quand même pas l'extase non plus. Quoi.
Pour rebondir sur ce que disait Victor, c'est un truc nouveau, donc il faut les laisser, c'est intéressant, etc. Et en fait, moi de base, c'est ça que j'adore d'habitude. C'est quand quelque chose sort de nouveau, je me pose toujours la question, ok, ça résout quel problème? Est-ce que j'ai ce problème? Et ça apporte quel nouveau problème. Et donc, j'ai gratté un peu. Et c'est peut-être juste parce que moi, si j'avais dû résoudre les problèmes de Node, j'aurais pas du tout fait comme ça que je suis énervé. Mais peut-être aussi parce qu'il y a une incohérence dans le propos. Et typiquement, le fait de dire on n'a pas de package manager, parce qu'on n'aime pas ce qui est centralisé et on veut tout décentraliser. Mais en fait, sur deno.land/x, tu as une espèce de liste, de catalogue raffiné de modules compatibles qui est en fait un proxy vers GitHub. Tu dis, mais là, ça fait un gros spoof, on est d'accord.
Après, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un package manager distribué dans IPFS?
Mais ce serait trop bien. Mais franchement, tu vois,
tu me dis,
est sorti un truc qui est un concurrent à Node.js et la gestion de paquets est gérée en torrent IPFS ou je ne sais quoi, je te dis putain, c'est intéressant quoi.
Donc la discussion, elle est en train de passer de arrêter de recoder des package managers à si on recodait notre propre package manager,
c'est génial parce que Hubert m'a fait la démo hier de Deno et en fait, tu peux même targeter de l'HTTP dans tes dépendances que tu targetes.
C'est ça
que j'ai génial, c'est que tu passes en proxy. Et du coup, tu peux modifier le code source que tu charges. Et là, moi, je vois une vraie possibilité d'imposer Deno en entreprise parce que tu pourrais réinjecter du coding style dans les dépendances logicielles à coup de squid. Tu sais, le proxy d'entreprise un peu sagouin, tu sais, qui va insérer du code dans le run comme un sagouin. Ça, je vois pas
une idée. Tu peux imaginer un WEF qui réécrit tes dep et qui enlève des trucs.
Aspect programming, le retour de aspect programming.
Non, mais voilà, ça illustre un autre truc que je trouve pas cohérent, c'est-à-dire que partout on te dit dans le site web, dans tous les Hello World qu'on a vu sur Medium, de ah, c'est génial, Deno, il y a et c'est sécurisé par défaut. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Deno a un système opt-in d'un ensemble de permissions.
Et donc, c'est par défaut, mais c'est opt-in.
Non, je veux dire, par défaut, ce n'est pas activé. Enfin, du coup, c'est de l'opt-in, c'est à toi de les enable. Et donc, par défaut, c'est sécurisé. Alors, pour les auditeurs audio, je mets des énormes air quotes. Parce qu'en fait, si tu fais une application qui a besoin du file system, qui a besoin du réseau, qui a besoin de lire les vardances, tous ces trucs-là, tu as besoin d'activer des flags. Alors, OK, c'est intéressant, mais si c'est ça la grande nouveauté de sécurité, moi, je préfère largement utiliser un framework comme API.js qui, en termes de sécurité, est battle-tested, qui est maîtrisé, où je sais exactement où sont les security policies, que d'aller utiliser un clone de Express sur lequel je vais être obligé d'activer le flag pour autoriser le réseau vu que je fais un serveur web et qui est sûrement troué de tous les sens parce qu'il est fait par quelqu'un qui enfin bref, là, je commence à être beaucoup trop salé. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on communique d'un côté en mode c'est très sécurisé, on a un système intéressant de capacité. Mais d'un autre côté, tous les imports de DEP se font en HTTP ou HTTPS. Donc déjà, le fait qu'il l'autorise en HTTP, c'est un scandale. Il y a une issue ouverte. Et le fait de l'HTTPS, c'est pareil. Quand on gratte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de lock qui permet d'éviter qu'une URL serve un coup un fichier normal et le lendemain un fichier verrouillé. C'est pas du tout ce qu'ils préconisent dans leur doc par défaut. Ils ont que des URL qui pointent vers master dans leur doc par défaut. C'est dommage en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est la promesse est intéressante et la réalisation est finalement bof. Et une hype démesurée.
Et puis après, ce qui est très pénible, c'est que c'est quand même un écosystème dans lequel tu vois clairement des gens essayer de se positionner pour quand la plateforme sera grosse, pouvoir monter des boîtes et faire du pognon dessus. Ça n'a rien à voir avec un écosystème comme Rust où au démarrage, on a tous rush pour essayer de faire une belle plateforme, bien propre. Tu vois, personne ne s'est positionné pour prendre le leadership sur Rust et gagner de l'argent dessus. Résultat,
t'as tout le monde.
Tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de faire du réseau dans Rust, mais globalement, les gens étaient d'accord.
Non, mais personne ne se positionnait pour prendre le pognon.
Il n'y a pas eu de CS2I ou de boîte, ça c'est clair.
Enfin, je veux dire,
c'est un écosystème sain. C'est un écosystème où les gens s'engueulent proprement, mais c'est un écosystème sain. T'as pas
non, mais ça, les gens ne soient pas tous d'accord avec eux, c'est sympa.
C'est pas parce que la courbe d'apprentissage était un peu rude pour Rust et que les gens, du coup.
C'est possible.
Non, je pense pas. Je pense que Mozilla a bien bossé et les gens qu'ils avaient placés à gérer la communauté, des mecs comme Steve Klamnik, ont très très bien géré et aplani les relations entre les gens, etc. Et tu as beaucoup de gros acteurs dans l'écosystème. Pour moi, c'est essentiellement aujourd'hui, quand tu veux lancer un projet de dimension, il faut passer énormément de temps à gérer la communauté. Et aujourd'hui, dans tous les projets web, ça part assez vite en cacahuète. Moi, ce que je trouve le plus dérangeant, c'est les gens qui t'expliquent que quand il y a un problème trop compliqué à résoudre, c'est simple, il suffit de nier l'existence du problème Et alors moi, typiquement, la gestion de dépendance, c'est les gens qui te nient l'existence du problème m'énerve au dernier degré, parce qu'en fait, c'est un des problèmes majeurs du code d'aujourd'hui. Ce que je propose, c'est qu'on avait prévu de parler ensuite des web components et de SBuild, des compagnies, mais je propose qu'on le mette à la prochaine fois, parce que là, ça fait déjà 1h20, les auditeurs vont craquer. Et ce que je vous propose donc, c'est de tirer le dé Clever Cloud pour décider qui nous fait la chanson de cette fois-ci. Je tire le dé Clever Cloud. Et je tombe sur un 16. Eh bien, le 16, c'est Hubert Savonnière.
Ah, je n'y attendais pas. Alors, comme je ne m'attendais pas que ça tombe sur moi, en fait, moi, comme musique à proposer, j'ai envie de proposer ma propre musique. Parce que si j'ai bien une seule fois l'occasion d'essayer de pousser des gens à écouter des compos que j'ai pu faire, je trouvais ça marrant de le suggérer. Après, je ne pensais pas être choisi. Donc, non, je vous ai sélectionné un morceau que j'ai composé il y a un peu moins d'un an dans le cadre d'un challenge que j'ai fait avec des potes. Et on a essayé de faire de la musique qui ressemblait à ce que fait John Carpenter, le réalisateur et compositeur de musique. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est fait entièrement sur un Teenage Engineering OPEC, petit synthé boombox super cool. Et donc c'est très mal mixé, désolé. Mais voilà. Et j'ai dû passer 4-5 heures dessus, donc le but c'était aussi de faire un truc très bien.
Voilà. Ok, merci Hubert. Bon, donc du coup, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Je rappelle que sur toutes les plateformes de podcast, on est sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast, on est sur Podcast Addict, on est sur YouTube, on est sur SoundCloud, on est partout. Hein, c'est complètement n'importe quoi. Et du coup, likez le podcast, abonnez-vous, faites-nous des retours. Je vous fais bien des bisous. Je vous laisse tous rediscuter vos pseudo Twitter pour dire au revoir aux gens. Victor, pseudo Twitter.
C'est Victor Balu, je crois.
Comme ça, je crois.
Et il est original.
C'est sur le site, ce sera dans les show notes, ne vous inquiétez pas.
Eh bien, H. Sablonien,
c'est H. Sablonien, oui.
L. Doguin pour Laurent. Et puis moi, c'est toujours W-A-X-Z-C-E, ce pseudo imposant ça. Merci beaucoup à tous de nous avoir
écoutés. Merci à tous.
Je vous fais des bisous et à la prochaine fois.
Salut.
À la prochaine.